Ah, qu'on est béni d'être avec vous ce matin. C'était tellement bon de chanter, d'entendre les prières et tout ça. En tout cas, j'ai été personnellement très édifié et je suis à peu près convaincu que c'est la même chose pour mon épouse qui est avec moi ce matin. Là, vous vous dites, hey, je l'ai déjà vu en quelque part, ce gars-là. Où est-ce qu'on l'a vu déjà? Ben, j'étais ici en avril dernier et je suis vraiment content de venir à l'église de Buckingham pour une deuxième fois dans la même année. Je pense que ça faisait 15-20 ans que j'étais pas venu auparavant. Et là, deux fois dans la même année, c'est une grande joie pour moi d'être là. Pour ceux qui me connaissent pas, bien, mon nom est Sylvain Paradis. J'ai fait plusieurs années dans le ministère pastoral dans la région de Montréal. Puis, depuis environ 9-10 ans, je suis avec le ministère de Sembec, le séminaire, comme ambassadeur. Et depuis 2-3 ans, je suis maintenant aussi ambassadeur pour la Fondation Sembec. La Fondation Sembec, c'est la raison pour laquelle j'étais là il y a quelques mois avec vous pour vous présenter la Fondation. Votre équipe pastorale m'avait cordialement invité à venir pouvoir vous parler de la Fondation. Et ce matin, bien, je suis pas nécessairement là pour vous parler de la Fondation directement. Ben oui aussi, mais surtout pour souligner quelque chose de spécial. Juste pour vous mettre rapidement dans le contexte, la Fondation, son objectif, c'est d'aider des pasteurs, des ouvriers ou des gens qui aspirent à servir dans l'Église, à se former, à accélérer leurs études en accordant des bourses financières pour soit payer leurs études ou pour les soutenir dans leur parcours de formation. Alors, la dernière fois que je suis venu, j'étais pas tout à fait à jour, mais maintenant je suis à jour. Je parlais de 1 200 000 en bourse qui a été donné dans les 20 dernières années. Aujourd'hui, on peut parler de 1 500 000 dans les 23 dernières années. Alors, c'est vraiment fabuleux, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a permis à travers la Fondation. On parlait de 70 personnes qui ont reçu des bourses et qui ont été actifs dans la formation et qui le sont encore. Et aujourd'hui, on peut parler d'une centaine de personnes qui étudient ou qui ont étudié à travers le séminaire Sembec, qui ont reçu une formation, qui ont aussi reçu une bourse pour compléter leurs études. Moi, ça m'impressionne. Je suis complètement renversé de voir ça. Alors, j'en dis pas plus maintenant. Ce que nous allons faire dans les prochains instants, c'est j'ai une nouvelle vidéo. La dernière fois, j'avais une vidéo qui parlait de la Fondation. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette vidéo qui nous donne un peu la saveur de quelques témoignages d'ouvriers ou de gens impliqués dans leur église qui ont reçu une bourse pour la formation. Alors, si notre technicien est prêt, le son est là, on peut aller de l'avant. Tu peux mettre stop et remettre avec le son. Alors, si le son se rend pas, ben, on va simplement arrêter cela. Peut-être que d'ici la fin, de la célébration, vous serez en mesure de pouvoir l'établir, mais c'est vraiment bon. Malheureusement, il l'a pas sur, comment ça s'appelle donc, Netflix ou Vidéotron. Pourtant, c'est super bon. Mais peut-être que nos techniciens vont résoudre ça d'ici la fin. Bon, un des buts pour lesquels je suis ici ce matin, c'est parce que quelle bénédiction. Quand je suis venu en avril, je pense dans la semaine précédente ou dans les 2 semaines précédentes, j'ai reçu un courriel par l'intermédiaire de la Fondation et on me demandait de l'information pour les bourses Sembec. Et ce courriel venait d'une membre ou d'une personne de votre église et c'était Karine Bellec qui demandait: Bonjour, Monsieur Paradis, est-ce que vous avez de l'information pour moi, les bourses et tout ça? Alors, j'étais très content de pouvoir répondre. Puis ça donnait que la semaine ou 2 semaines après, j'étais dans votre église, j'étais avec vous à votre église, j'ai rencontré Karine, son mari, tout ça. On a pris une belle photo avec les enfants. C'est sur le site de la Fondation, en passant. Si vous allez sur fondationsembec.org, vous allez avoir toute l'information. Bref, Karine a appliqué pour avoir une bourse et elle a été acceptée. Alors oui, on peut l'applaudir. Et ce matin, un des mandats que j'ai, c'est d'aller dans les églises pour remettre une attestation à ceux qui sont récipiendaires pour la première fois d'une bourse dans leur assemblée. Alors, l'idée, le but, c'est de vous encourager à voir ce qui se passe, c'est d'encourager Karine à aller de l'avant, puis aussi, c'est d'encourager peut-être d'autres qui pourraient aspirer à recevoir des bourses ou avoir du soutien financier parce qu'ils veulent servir, se former pour le progrès de l'Évangile dans votre Église. Alors, je vais inviter immédiatement Karine en avant à recevoir cette attestation. Alors, Karine, il me fait plaisir, au nom de la Fondation Sembec, de te remettre cette attestation qui valide, qui confirme que tu es une récipiendaire de l'Église de Buckingham et qui est active dans l'étude de la parole pour servir dans l'Église. On peut l'applaudir à nouveau? Que le Seigneur te bénisse. Tiens, Karine, pour une autre. Ah, oui, une photo pour notre site web. Merci. Merci, Karine. Alors, voilà. Est-ce que vous avez pu régler la vidéo? Dernière tentative. Vous m'accordez 5 minutes de plus à la fin, si jamais... OK. Bon. De toute façon, je voulais vous dire que la version... Ça, c'est une version courte qu'on appelle. Elle dure 2 minutes. La version longue... je ne l'ai pas vérifié, mais elle devrait être sur le site. On m'a avisé hier soir, enfin, je l'avais demandé pour vous le dire ce matin, elle devrait être sur le site de la Fondation Sembec. Vous pouvez écouter, c'est les témoignages de boursiers, boursières qui nous parlent du bienfait de cette bourse. Maintenant, pour nous ce matin, une question tellement facile à répondre que je vais vous poser. J'en ai entendu parler par votre animateur ce matin. En plus, je l'ai vu dans vos cantiques à plusieurs reprises. Et cette question est celle-ci. Est-ce que la grâce de Dieu peut s'épuiser? Bonne question. Réponse facile, parce qu'il y en a déjà plusieurs, puis probablement que les autres l'anticipent, ils ont dit, voyons donc, c'est évident. Mais est-ce possible d'aller jusqu'au bout de la grâce de Dieu? Est-ce possible de descendre tellement creux, d'aller tellement loin, qu'on perd de vue vraiment l'impact, la puissance, la possibilité de la grâce de Dieu dans notre vie? Est-ce que c'est possible? Et la réponse, c'est non, c'est impossible! Impossible! On ne peut pas aller jusqu'au bout de la grâce de Dieu. Il y a même un cantique qu'on chante à travers le monde qui est très connu, que vous connaissez vous aussi, « Amazing Grace », grâce infinie. On ne peut pas aller jusqu'au bout de la grâce de Dieu. Pourtant, il est possible qu'on arrive à un point dans notre vie où on peut choisir de lancer la serviette parce qu'on se dit, écoute, moi, la grâce de Dieu, moi, j'ai comme l'impression que je suis allé jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que le Seigneur pourrait faire encore avec moi, mais j'ai l'impression que je suis allé jusqu'au bout. Et ce matin, si tu as lancé la serviette sur toi-même, j'aimerais t'encourager à considérer toute la grandeur, la beauté de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce de Dieu? En fait, dans sa plus simple expression, on pourrait dire un cadeau. Un cadeau. Si on développe un peu plus, on pourrait dire quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous accorde quand même. Hein? Vous connaissez bien ça, là. Sûrement que vos anciens, vos pasteurs ici vous ont enseigné ça depuis longtemps. Si on va un peu plus loin, on dit c'est le cadeau du pardon qui nous est acquis par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Vous êtes d'accord, hein? La grâce de Dieu. C'est impressionnant, mais moi, ce qui m'impressionne dans la grâce de Dieu encore davantage, c'est que non seulement le Seigneur nous pardonne, mais il nous restaure aussi. Il nous ramène, il nous reprend sur son aile, il nous rétablit. C'est la grâce de Dieu parce que, en réalité, le Seigneur aurait pu nous dire, écoutez, je vous pardonne, mais ça finit là, on se revoit dans l'éternité, puis il ne nous restaure pas nécessairement sur la terre. Ça aurait été quand même extraordinaire, c'est toujours la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans sa grâce, non seulement il pardonne, mais il nous restaure aussi. Et on a besoin d'être restauré. Et certainement, si vous avez un peu de millage dans votre vie chrétienne, vous vous souvenez d'un moment où vous avez eu besoin d'être restauré et vous allez encore avoir besoin d'être restauré. J'aimerais vous donner une image que nous avons expérimentée, mon épouse et moi, dans l'église où on était à un moment donné, où une jeune femme s'est présentée pour me rencontrer et je l'ai rencontrée avec une autre dame. Et elle était vraiment en détresse, elle avait entendu parler un peu de l'Évangile, puis là, elle voulait me rencontrer pour aller un peu plus loin, complètement amaigrie, cernée, les marques de seringues dans ses bras, une héroïnomane complètement dans l'esclavage avec cette drogue qui faisait tous les dommages dans cette vie. On a parlé un peu de l'Évangile, puis finalement, elle est venue au Seigneur. Puis, elle a commencé à fréquenter l'Église, mais à un moment donné, elle est partie en cure de désintoxication. Et on ne l'a pas vue pendant un bon bout de temps. Puis, un dimanche matin, elle est arrivée, puis elle était, semblait aller bien. Elle était accompagnée de sa travailleuse sociale qui voulait aussi l'encourager dans sa démarche. Et elle est retournée sur les bancs d'école, elle est retournée à l'école, elle a fait un diplôme. Elle a repris son travail, elle a recommencé à travailler, puis elle s'est faite baptiser. Puis le jour de son baptême, lorsque son tour est venu, elle dansait dans l'allée pour venir se faire baptiser, avec sa Bible dans les mains. Et quelque temps après, un dimanche matin, elle est allée voir mon épouse, Ninon, et elle lui a dit, « Ninon, regarde comment je suis belle! » La grâce de Dieu qui restaure. Cette grâce de Dieu. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est regarder le parcours d'un disciple qui a eu besoin d'être restauré et qui a eu besoin de la grâce de Dieu. Et je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. On va regarder sa restauration. Jean, chapitre 21. À partir du verset 1, je vais choisir quelques versets à lire dans ce passage. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque née, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Et on les retrouve un peu plus bas dans le passage. Jésus a préparé le déjeuner, au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Seigneur Père du ciel, j'aimerais prier à nouveau ce matin. Je te remercie pour la bénédiction que tu me donnes. Tu nous donnes d'être dans cette église aujourd'hui. Je te prie vraiment de les remplir de toi-même. Merci, Seigneur, pour leur amour pour toi. Et maintenant, permets, Seigneur, qu'à travers les quelques textes que nous allons regarder ce matin, à travers l'expérience de Simon-Pierre lui-même, nous soyons tous encouragés, fortifiés et reconnaissants pour ta grâce merveilleuse qui non seulement nous pardonne, mais qui nous restaure aussi. Béni sois-tu. Amen. Simon-Pierre, on en a tous entendu parler. On connaît pas mal son histoire, celui qui a renié le Seigneur trois fois. Comment s'imaginer qu'un homme tel que Pierre, l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, un leader, le vétéran ou un des vétérans des disciples, comment peut-on imaginer que Pierre a renié le Seigneur trois fois? Difficile à saisir, difficile à comprendre. Mais le Seigneur, dans sa grâce, le rétablit. Mais voici comment l'Écriture nous présente ses premières relations, ces moments que Pierre a vécu avec le Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder son parcours à travers quelques passages, quelques versets. Premièrement, au chapitre 1, dans l'Évangile de Jean, au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. » Ce qui signifie pierre, roc. Imaginez la scène. Simon arrive à côté de Jésus, puis là, Jésus le regarde. Jésus ne le regarde pas simplement juste pour le regarder. Jésus le regarde et dit à Pierre, il déclare, il fait ce genre de prophétie, « Tu es Simon ?» Tu vas devenir Céphas, le roc. C'est comme si Jésus lui dit, tu es Simon, mais je vais te transformer. Je vais faire de toi le roc. Je vais transformer ton caractère. Parce que Jésus, dans son omniscience, a la capacité de voir le produit fini en chacun d'entre nous. Lorsque Jésus nous regarde, il est en mesure de voir vraiment ce qu'il aimerait accomplir en nous et il peut voir le produit fini. Et c'est ce qui se passe au moment où Simon, fils de Jonas, rencontre le Seigneur Jésus qui lui dit, « Tu es Simon, tu vas devenir Cephas, Pierre. » Et on voit dans l'Évangile d'ailleurs, parfois on parle de Simon, parfois on parle de Pierre. On n'a pas le temps de regarder tout ça, mais c'est intéressant de faire les parallèles avec la situation, qu'est-ce qui se passe et quel nom on utilise concernant Simon. Parfois c'est Simon-Pierre, c'est comme s'il y a son côté humain et son côté où il sera transformé, où il est en transformation par la grâce de Dieu. J'aime ce que John MacArthur dit de cette situation, cet événement que Pierre vit. Il dit, c'est comme si Jésus lui dit, « Simon, tu es peut-être du marshmallow, mais tu vas devenir du roc, solide. Simon, tu vas devenir quelqu'un qui va avoir un caractère solide, qui va avoir une foi solide, parce que Jésus voit le produit fini. » En passant, Jésus, lorsqu'il nous regarde, il nous connaît entièrement. Tu es Simon, fils de Jonas. Il connaît sa généalogie. Il pourrait retourner en arrière jusqu'à l'origine de sa généalogie parce qu'il est omnipuissant, justement. Et il est omnipuissant avec chacun de nous aussi. La Bible ne dit-elle pas que tous nos cheveux sont comptés? N'est-ce pas? Je ne sais pas comment Simon est retourné chez lui, puis qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a dit, ben, « J'ai rencontré Jésus, il m'a dit que je deviendrais Cephas. » Deuxième rencontre. Je vous invite dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, c'est cette histoire de pêche miraculeuse. Nous lisons, par exemple, à partir du verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Avance en pleine eau, Simon. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est comme si Pierre, tu sais, Pierre connaît le lac, connaît son lieu de pêche comme le fond de sa poche. Ils viennent d'aller pêcher toute la nuit. Les pêcheurs sont sur le bord de l'eau. Ils sont en train de nettoyer leurs filets. Il semble que la pêche n'avait pas été bonne. Ils n'ont rien pris. Et là, Pierre, on peut, par exemple, spéculer qu'il regarde Jésus et qu'il dit, écoute, on vient d'y aller. Je suis un pêcheur professionnel, Pierre. Jésus, je suis un pêcheur professionnel. Voyons. Et en plus, un charpentier est en train de dire à un pêcheur où aller pour attraper du poisson. Après que le temps de la pêche est fini, avance en pleine eau. Ben oui, mais si j'avance en pleine eau, le poisson, quand le jour revient, le poisson descend dans le fond, comment on va faire pour... Voyons, on pourrait imaginer, spéculer tout ce que Pierre a pensé. Mais il dit, « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Maître, OK. Sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Alors imaginez la pêche, il y a tellement de poissons dans le filet qu'ils commencent à faire des signes. Venez nous aider, hey, on a une pêche, là, c'est extraordinaire. C'est la plus belle pêche certainement de la journée, peut-être à vie dans le secteur où ils pêchaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une embarcation où vous voyez que ça commence à trop s'enfoncer. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là, mais ce n'était pas parce qu'il y avait beaucoup de poissons, c'est parce qu'on était trop nombreux dans l'embarcation. Mais imaginez, hey, ça en fait du poisson, ça. Alors, ça se passe vite dans leur tête parce qu'ils ne veulent pas manquer leur pêche. Là. On peut imaginer aussi les autres pêcheurs qui, eux, ils sont restés sur le bord puis ils regardent ce qui se passe et ils disent, mon ami, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. On a pêché toute la nuit. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce que lorsque Pierre a pris conscience de cette pêche miraculeuse, c'est au début, wow, le miracle, c'est extraordinaire, les poissons, l'abondance, mais c'est comme si le miracle a pris une seconde place et maintenant on s'est tourné vers celui qui avait fait le miracle. Et qui est celui qui avait fait le miracle? Il était en train de démontrer qu'il était réellement qui il prétendait être, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur d'Israël, le Sauveur du monde. Alors Pierre a vu, a été conscient de son omnipotence, c'est-à-dire de sa toute-puissance, celui qui est capable, sans sonore, de trouver l'endroit. Et non pas de trouver l'endroit, même de commander à tous les poissons de la mer de se diriger au même endroit pour une pêche miraculeuse. Et Pierre a reconnu à ce moment qui était véritablement celui qui était devant lui, Jésus, le Messie, celui qui vient pour nous sauver. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà ce que Pierre commence à découvrir. Le texte nous dit, « Car l'épouvante l'avait saisi, la peur, la crainte, la frayeur. » Oh, attends une seconde, là. Celui qui est devant moi est le Messie. Non seulement lui, mais tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, lorsqu'il le voit, il lui dit, « Tu seras Céphas. Je vais te transformer, Simon. » Et ici, maintenant, il lui dit, « Tu vas être pêcheur d'hommes. » Wow! Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Troisième aussi, moment où Pierre a vraiment découvert l'omnipotence, la puissance du Seigneur Jésus, c'est dans Matthieu 14. Et je vous résume le passage, puisque le temps avance. Mais dans Matthieu 14, nous voyons Jésus qui, après avoir nourri une grande foule, retourne les disciples qui doivent traverser et prendre leur embarcation et traverser. Il est quand même assez avancé dans la soirée. Et eux partent sous la demande de Jésus, mais durant leur navigation sur la mer, la tempête se lève du vent, les vagues tumultueuses et tout ça. Ils n'ont pas fait beaucoup de chemin, mais au verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, par le vent contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. On parle de entre 3 et 6 heures le matin, là. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ça m'a toujours un peu comme interpellé de voir des hommes qui sont habitués d'être sur la mer, dans leur embarcation, qui vont à la pêche, mais là, subitement, devant ce qui se produit devant eux, ils poussent des cris. J'imagine une douzaine, si c'est les apôtres, mettons, une douzaine de personnes, des hommes qui sont en train de crier de peur. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est ce que le texte dit. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Ouais, Seigneur, si c'est toi, version québécoise, ok? Ouais, Seigneur, si c'est toi, ben ordonne que j'aille te rejoindre. » Jésus dit, « Ben, viens-t'en. » Là, j'imagine Pierre. Mets le pied dans l'eau. Hein? Je ne coule pas. On va retrouver le Seigneur Jésus. Non, vous pouvez vous imaginer. Hein? Mais le texte nous dit qu'à la vue des vagues, à la vue de la mer tumultueuse, il a regardé, la peur il a pris, puis il a commencé à couler. Et là, il a crié, « Seigneur, sauve-moi! » La plus petite prière de la Bible. « Sauve-moi! » Et Jésus lui répond, « Tant pis pour toi. T'as pas cru? Cool, on se reverra dans l'éternité, on va s'en reparler ensemble. » Est-ce que c'est ça que Jésus fait? Non, le texte nous dit que, « Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Tu sais, les commentateurs regardent ça, puis certains commentateurs vont parler beaucoup de l'incrédulité de Pierre, qui finalement, il avait atteint presque son but d'aller retrouver le Seigneur, mais il y en a quand même 11 qui sont restés dans la barque, puis il y en a juste un qui est sorti pour aller vers le Seigneur parce qu'il croyait. Mais en chemin, ben, il a douté, tu sais. Ça doit t'arriver, toi aussi, des fois que tu pars plein de fois, puis tout à coup, en chemin, tu doutes un peu, mais j'aime ce qu'un commentateur a dit. Il a dit, « Vaut mieux un Pierre mouillé qu'un Thomas sèche. » Ben. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Non seulement celui qui est capable de commander aux poissons de se rendre à un endroit dans la mer, mais aussi celui qui est capable d'avoir le contrôle sur les éléments de la nature, qu'il peut faire arrêter le vent à sa guise, qu'il peut créer une tempête à sa guise, mais qui est toujours en plein contrôle, qui est au-dessus de toutes les tempêtes. Et j'oserais dire aussi pour vous aujourd'hui, il est au-dessus de vos tempêtes. Et on veut garder les yeux sur lui pendant nos tempêtes. Vous savez, le Seigneur, parfois, va se servir d'une tempête pour nous faire grandir, pour nous apprendre une leçon dans la foi ou dans notre vie chrétienne. Parfois, les tempêtes sont à l'intérieur, mais parfois, les tempêtes sont à l'extérieur aussi. Mais ce qui est important, c'est pas que la tempête soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'oserais même dire, parfois, elles sont à l'intérieur et à l'extérieur en même temps aussi. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur est en contrôle sur les tempêtes. Il nous appelle à nous tourner vers lui et à avoir la foi, à continuer d'avoir confiance en lui. Pierre a vu Jésus nourrir des milliers de personnes. Il a vu une pêche miraculeuse. Il a vu calmer la tempête. Dans Marc 1:30, on ne le lira pas, mais je vais vous le résumer. Il a vu même le Seigneur Jésus guérir sa belle-mère, atteinte d'une violente fièvre. Dans Matthieu 17, 1 à 5, on peut le regarder rapidement, c'est le fameux passage de la transfiguration où il est dit, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, métamorphosé, changé comme dans un aspect de gloire céleste. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça devait être vraiment, vraiment impressionnant, renversant de voir ce qui se produit. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors Pierre prend la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Non, mais, hey, Pierre, hein? C'est un gars de cœur, Pierre. Il a la foi, il se laisse atteindre par la puissance de Dieu. Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée, ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le! C'est comme si l'Éternel Dieu voulait bien que on puisse distinguer qu'il y a une différence entre Élie, Moïse et Jésus. Mais Jésus est son Fils unique, le Fils bien-aimé, le Messie, l'égal du Père, qui vient sur terre pour nous sauver. Et ça, c'est une grande distinction à faire. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Le Seigneur Dieu avait parlé. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quelle expérience que Pierre a vécue. On pourrait en parler encore longtemps, mais dans Matthieu 26, maintenant, là, on voit un autre côté de l'apôtre Pierre qui ressort. Dans Matthieu 26, au verset 31 à 35, c'est le moment où le Seigneur est en train d'annoncer qu'il va être arrêté et on va le juger, il va être crucifié. Alors, Pierre, prend la parole, le fougueux Pierre. Seigneur, verset 31, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tellement confiance en sa propre dévotion. Ouais, Seigneur, écoute, même si tout le monde t'abandonne, même si tous les disciples t'abandonnent, là. Jamais! Vous connaissez ce qu'on dit parfois ici en français, hein? Faut jamais dire le mot jamais. Jamais, Seigneur, je vais te renier. C'est comme si Pierre se met même, en raison de sa confiance en sa propre dévotion, il se met même au-dessus des autres. Puis il dit, moi, je l'ai l'affaire. C'est dommage si les autres t'abandonnent, Seigneur, mais moi, je t'abandonnerai pas. Quelle erreur! Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Dans un autre passage, il dit, Pierre, avant que tu m'aies renié deux fois, le coq va avoir chanté trois fois. Mais malgré la réponse de Jésus, Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Vous connaissez la suite. Ce qui devait arriver arriva, bien sûr. Et on voit un peu plus loin, au chapitre 26, vers le verset 69, en fait, c'est la partie du reniement de l'apôtre Pierre, où Pierre renie le Seigneur trois fois. On le voit ici au verset 69. Jésus a été arrêté, le procès a lieu, et là, ben, il se trouve présent dans l'environnement où se déroulent les événements. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, verset 69, chapitre 26, Matthieu. « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Hein? Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je le jure, Je le jure, je fais un serment, je m'engage dans tout ce que je suis. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Il y avait peut-être une question d'accent. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » C'est comme s'il y a une gradation, il y a une augmentation dans son reniement, où il dit simplement « Non, je ne connais pas un mensonge. » Ensuite, il dit « Oui, je le jure que je ne le connais pas. » Et là, maintenant, avec des imprécations, c'est comme s'il disait « Que toute la colère de Dieu me tombe dessus si je connais cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pleurait comme un bébé. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle erreur, voyons, ça n'a pas de sens. Je connais Jésus, je connais le Seigneur, je sais qui il est, je suis convaincu, je crois à l'Ancien Testament, je crois à ce qui est dit sur le Messie. J'ai vu tellement de choses, c'est évident, ça fait 3 ans que je suis avec lui, que je le côtoie, j'ai vu comment il est, j'ai entendu ses paroles, je connais toutes ces choses-là. Comment j'ai pu tomber dans le piège de renier le Seigneur 3 fois? Dans un autre évangile, il est parlé que les regards de Jésus ont croisé Pierre. Leurs regards se sont croisés au moment où il a renié pour une 3e fois. Et encore une fois, lorsqu'on lit les commentateurs, qu'est-ce qu'on peut lire dans ces regards? Personne n'était là, hein? On n'a pas vu, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces regards-là? Moi, je suis de la génération de Jésus de Golgotha. Ceux qui ont vu le film, c'est un film qui roulait il y a 50 ans, ça. Je ne sais même pas si on peut le mettre encore dans une bobine à cinéma. C'était un film en noir et blanc. Puis quand arrivait le moment du reniement de Pierre, on nous montrait le Seigneur Jésus, l'acteur qui avait le rôle, et Pierre. Et Jésus avait un regard, moi en tout cas je l'ai interprété comme ça, de grande déception. Ou encore, je te l'avais dit, Pierre, quel était ce regard de Jésus? J'aime beaucoup le commentaire de Campbell Morgan, qui parle de ce regard de Jésus avec Pierre. Puis il dit, c'était le regard du berger. C'était le regard du berger. Le Seigneur Jésus avait dit, je vais prier pour toi, Pierre. Et quand tu vas être affermi, je veux que tu fortifies, t'encourages la foi des autres. Alors, est-ce que Jésus était fâché de dire, parce que il me renie, il me renie, ça se peut-tu? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai guéri sa belle-mère, j'ai fait des miracles, je l'ai sorti de l'eau quand il était en train de se noyer. C'est le regard du berger, c'est le berger qui restaure, le berger qui avait vu en Pierre celui qui était peut-être comme du marshmallow, mais que le Seigneur va faire un roc avec lui. Et c'est dans un moment intense. Jésus s'en va à la croix. Jésus s'en va porter nos péchés sur ses épaules. Il s'en va payer le prix ultime pour que nous puissions être graciés tous et chacun et avoir accès au ciel même. Qu'est-ce que va faire Jésus avec Pierre? Et c'est là qu'on arrive au chapitre Jean 21. On approche de la fin, on est presque à la conclusion. Qu'est-ce que Jésus va faire avec Pierre? Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Est-ce que Pierre savait que Jésus lui pardonnerait ou l'avait pardonné? Dans ce passage, on peut dire certainement que oui, parce que quand Jésus est apparu, c'est-à-dire quand les dames se sont rendues au tombeau et qu'ils ont vu les serviteurs qui étaient là, ils ont dit, « Allez dire aux disciples et à Pierre que Jésus est ressuscité. » Le Seigneur était déjà en train de commencer à le restaurer. Lorsqu'on regarde aussi les passages de l'Évangile, c'est-à-dire de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15 de la première Épître à Corinthiens, Paul décrit l'Écriture, ce que le Seigneur a fait, mais il dit aussi, il parle de sa résurrection, et il dit, « Il est apparu à Céphas, qui est notre Pierre, que nous voyons dans l'Écriture, il est apparu à Céphas, puis aux autres disciples. » Alors, je pense que c'est clair que Pierre savait que Jésus lui avait pardonné, il l'avait gracié. Mais comment se sent-il? Est-ce qu'il se sent Céphas, Pierre, le roc, ou encore Pierre, le pêcheur d'hommes? Non, je pense qu'il se sent le pêcheur de poissons. Parce que c'est comme si on pourrait dire dans Jean 21, il retourne à ce qu'il a toujours été. Il retourne à la pêche, son commerce. Alors nous le voyons, Simon-Pierre leur dit, avec les disciples qui étaient avec lui, « Je vais pêcher, lui dire, nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. En passant, ils sont dans le même plan d'eau, ils sont dans l'endroit où Jésus avait fait sa pêche miraculeuse en Luc chapitre 5 qu'on a lu tantôt. Ils sont à la même place, dans le même plan d'eau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ah ben! Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Est-ce que vous pensez que le Seigneur posait la question puis il ne savait pas qu'est-ce qui se passait? Oups. Ils lui répondirent, « Non! » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Parce que le Seigneur a la toute-puissance de dire à n'importe quel poisson dans la mer, « Venez-vous-en à cet endroit-là. » Et malgré le fait qu'ils avaient encore une fois pêché toute la nuit et qu'ils n'avaient rien attrapé, ils lancent le filet. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. Il s'est pas jeté dans la mer pour se cacher du Seigneur, il a pris ses vêtements pour aller retrouver le Seigneur. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Moi, quand je lis ce passage-là, ça me fait penser au déjeuner de l'espoir, tu sais. Je ne sais pas ceux qui se rappellent, les plus anciens. Là, aujourd'hui, c'est moins en vague ou moins à la mode, peut-être. Mais moi, je me souviens d'un temps, il y a peut-être 25 ans, où on avait des déjeuners d'espoir dans les églises, c'est-à-dire on allait déjeuner dans un restaurant un samedi matin, par exemple. On réservait un endroit dans le restaurant et quelqu'un apportait son témoignage pour encourager la foi de ceux qui étaient présents. Alors moi, quand je lis ça, je me dis, ben, hey, voilà, ça, c'est le premier déjeuner de l'espoir de la Bible, tu sais. Apporter des poissons. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Ah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Paix, mes agneaux. Paix, mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes brebis. Excusez-moi. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes brebis. Le Jésus qui non seulement pardonne, mais restaure. J'ai lu une histoire il y a plusieurs années dans un livre écrit par Adam Robinson. Peut-être certains le connaissent, mais Adam Robinson, c'est un prédicateur américain qui a écrit des livres sur l'homilétique, l'art de présenter, préparer des sermons. Et il est venu même enseigner à Sembec à cette époque, ça fait quand même longtemps. Et dans un de ses livres, il parle d'une situation qui s'est produite au Rose Bowl. Le Rose Bowl, c'est le niveau universitaire du Super Bowl. Le Super Bowl, c'est le football américain, c'est la coupe là, finale extrême qu'on écoute à la fin janvier pour ceux qui aiment le football. Et là, c'était au niveau universitaire. Et pendant le match, un des membres, nommé Riggle, qui faisait partie de l'équipe de l'Université de Californie, a pris le ballon et a couru 65 verges dans la mauvaise direction et il est allé porter le ballon dans ses propres buts plutôt que dans les buts adverses. 65 verges! Ben, imaginez ça, là, t'es rendu autour de la ligne de 40, le gars il part avec le ballon puis il s'en va dans tes buts. Là. Riggle revient sur le banc. Selon l'histoire, il s'est mis dans un coin, il a pris une grosse couverture, puis il s'est caché, puis il pleurait comme un bébé. Le coach avait vu ça. La demi se termine. Et le coach, à la prochaine demi, dit ainsi à ses joueurs, « Ceux qui étaient sur le terrain à la dernière demi retournent sur le terrain. » Toutes les gars se lèvent, s'en vont. Riggle, il bouge pas. Donc, le coach voit ça. Il répète. Ceux qui étaient sur le terrain à la dernière demi retournent sur le terrain. Pas grave, pas grave. Riggle ne bouge pas. Le coach se tourne vers Riggle. Il lui met les deux mains sur les épaules. Il dit, « Hey, retourne sur le terrain. On est seulement à la moitié de la partie. » Et Riggle est retourné sur le terrain. Puis selon l'équipe adverse, il a joué une partie de football comme on a rarement vu un joueur jouer dans un match du Rose Bowl. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ce matin-là, c'est comme si Jésus avait mis les mains sur Simon-Pierre et lui avait dit, « Hey, Simon, on est à la moitié de la partie. Retourne sur le terrain. » Parce que le Seigneur Jésus est le Dieu non seulement qui fait grâce, mais celui qui restaure aussi. Pourquoi il a fallu que Pierre tombe? Jésus, pourquoi Jésus n'a pas dit, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes pas et tu ne tomberas pas. » Pourquoi il a permis que Pierre tombe? Parce que Pierre avait besoin de comprendre que son service et son succès dans le travail de Dieu ne passera pas par sa dévotion, mais par la puissance de la grâce de Dieu qui est sur lui. Et parfois, nos échecs servent de tremplin pour nous permettre encore plus de faire confiance au Seigneur, de recevoir sa grâce et d'aller oser continuer et aller de l'avant avec lui. Parce que la partie n'est pas terminée, mes amis. Le Seigneur revient bientôt. Ce matin, s'il y a des gens ici qui ont lancé la serviette sur eux-mêmes, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus aimerait te restaurer. J'aimerais te dire qu'il aimerait mettre les mains, ses deux mains sur tes épaules et te dire, « Hey, on est à la moitié de la partie. retourne sur le terrain. Quelqu'un qui dit « Ah non, moi, oublie ça, mon ami, oublie ça. Moi, là, je suis allé beaucoup trop loin. » Ouais, tu parlais de la grâce de Dieu tantôt, grâce infinie. Hey, la grâce, là, c'est comme dit l'Évangile de Jean, c'est grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce, à l'infini, et comme dit un commentateur, c'est comme une vague après l'autre quand tu es devant le bord de la mer. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de fin, c'est l'infini. Ce qui nous bloque dans la grâce de Dieu, c'est nous qui refusons de la recevoir. Dieu nous aime. Il veut nous restaurer. Peut-être qu'on lance la serviette parfois sur quelqu'un d'autre, quelqu'un dans l'Église. On peut lancer la serviette peut-être sur notre épouse ou notre époux. On peut lancer la serviette sur nos enfants ou un de nos enfants. On peut lancer la serviette peut-être sur une situation dans l'Église. On peut lancer la serviette. Le Seigneur aimerait nous restaurer. Il veut nous restaurer. Il a la puissance de restaurer parce qu'il est le berger qui restaure. Et c'est ce qu'il aimerait faire en chacun d'entre nous. Si tu dis, « Ah, c'est beau ce que tu dis ce matin. Moi, j'en ai pas besoin. » OK, je me réjouis avec toi, même si je te connais pas. Mais peux-tu, toi, restaurer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais restaurer? Il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais écouter. Il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais encourager. Il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais mettre tes mains sur ses épaules et dire, hey, « Lâche pas, le Seigneur est là, il est avec toi. » Je ne sais pas comment le Seigneur peut faire pour vous. Je ne vous connais pas, alors je me permets de dire tout ce que je pense du fond de mon cœur. Mais une chose que je veux que vous soyez certains, c'est que la grâce de Dieu fait l'impossible. Non seulement elle nous pardonne, mais elle nous restaure aussi. Et quand on regarde la suite de l'histoire de l'apôtre Pierre, nous voyons un apôtre Pierre qui se lève au chapitre 1 des Actes des Apôtres. 3000 conversions, il se lève et il prêche l'Évangile. Nous voyons l'apôtre Pierre rempli de foi, alors qu'un mendiant lui demande de l'aumône et dit, « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Wow! Lève-toi et marche! On voit un apôtre Pierre qui est arrêté avec les disciples, battu de verges. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu ou entendu. Le marshmallow de l'Évangile est devenu le roc dans les Actes des Apôtres. Et on voit l'apôtre Pierre qui écrit une lettre dans un moment de terrible persécution où il encourage les chrétiens à garder la foi, à persévérer, à garder l'espoir de cet héritage que rien ne pourra corrompre, mais que nous sommes tous appelés à recevoir par le beau nom précieux de Jésus-Christ et la grâce qu'il nous a faite. C'est pas extraordinaire. En tout cas, il faut que j'arrête, mais... Que le Seigneur puisse vous bénir, puis je vous remercie de m'avoir permis d'être avec vous encore ce matin. Merci à votre équipe pastorale, M. Bélec en particulier, c'est avec lui que j'ai eu les échanges. Et on a pu être là, mon épouse et moi, et ça nous a fait un grand plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur Père du ciel, ah Seigneur, à toutes les fois que je lis ces textes, mon cœur est touché. Seigneur Père, merci ce matin que dans ta bonté, j'ai eu cette grâce de la partager, ta parole. Puis je te prie pour cette Église, Seigneur, afin que tu la fortifies. Merci pour ce que je vois, ce que j'entends. Et je te demande de les fortifier, de les garder en toi. Merci pour leur amour pour toi, leur zèle, leur désir de t'adorer. Et sois béni. Et si quelqu'un ici a besoin d'être restauré, Seigneur, manifeste-toi par la puissance de ton esprit. Manifeste ta grâce. Convainc, Seigneur, par ta parole, de tes bontés, de ta grâce que tu nous offres à tous les jours et qui se renouvelle chaque matin. Béni sois-tu, en ton nom nous prions. Amen.